France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Semyon Bychkov. Je suis né à Saint-Pétersbourg, qui à l'époque a été Leningrad, en 1952. Je suis chef d'orchestre.
Bonjour, Semyon Bychkov.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous accorder ce temps chez vous, à Paris. Vous êtes chef d'orchestre, mais peut-être avant tout, vous êtes musicien. Vous êtes un passeur qui tend à susciter chez l'autre la musique, à faire naître l'émotion. Grandi à Leningrad, lancé sur les flots symphoniques à Grand Rapids, dans le Michigan, adoubé par les plus grands, invité sur les podiums les plus prestigieux de ce voyage musical-là, évidemment. Nous allons parler, et puis, de l'actualité qui vous occupe, notamment celle de retrouver l'Orchestre de Paris à la Philharmonie. L'Orchestre de Paris que vous avez dirigé pendant 9 ans et que vous n'avez pas revu, je crois, depuis 1998. De tout ça, évidemment, nous allons parler. Mais en premier lieu, pour faire connaissance, j'aimerais vous proposer de réagir à une phrase de Nabokov qui dit « Mon cœur répond le russe, mon esprit répond l'anglais et mon oreille répond le français. »
Mon Dieu, on ne peut pas mieux dire que ça. Impossible. Impossible. Mais lui, il a incarné cette identité culturelle, identité humaine qui consistait à plusieurs niveaux. Donc, un russe américain, finalement, il a écrit en anglais, qui est très rare pour les écrivains de pouvoir faire à ce niveau-là. Donc, j'admire énormément cette phrase parce que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve.
Ici, on vous entend en français, évidemment, mais le russe est encore une langue qui est présente chez vous?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis né dans la langue russe, culture russe. Ça, c'est mes racines. Et les racines restent toujours les racines. Seule chose, c'est que grâce à la vie qui te donne une privilège d'accroître d'autres racines, ça devient quelque chose qui est nettement plus complexe que quand on est uniquement né dans un pays et vit toute la vie. Il n'y a rien à dire contre, sauf que je trouve que pour quelqu'un qui est un musicien, qui est mon cas, donc j'interprète la musique qui vient des cultures différentes. Culture française ou anglaise ou allemande, peu importe. Donc, quelque part, j'ai une obligation et le défi de pouvoir entrer dans leur monde, le pénétrer. Et on ne peut pas le faire en tant qu'un touriste. Donc, finalement, ça exige que l'identité d'un interprète corresponde à ce qu'il interprète.
Un caméléon.
Exactement.
Est-ce que dans votre famille, si on pense à vos parents, il y avait cette curiosité-là déjà, cette curiosité culturelle, livresque, musicale
Oui, tout à fait. Vous savez, ma mère, elle a étudié piano dans son enfance et après, elle n'a pas poursuivi ses études parce que la guerre a interrompu tout cela. Et après la guerre, elle est devenue professeure de français et d'anglais. Donc ça montre déjà une certaine ouverture d'esprit vers d'autres cultures. Et mon père, qui était scientifique, il était amoureux de littérature, musique aussi. Mais par exemple, il m'a raconté quand il a grandi, il a lu pas uniquement Pushkin, Lermontov, Tolstoï, Dostoïevski, etc., etc. Il a lu Balzac en entière, Stendhal en entière. Et donc, ça montre aussi cette ouverture d'esprit et le désir de découvrir le monde entier, surtout dans les conditions qui existaient à l'Union soviétique à l'époque, quand ils ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas exercer leur connaissance des langues étrangères. Donc, ça restait finalement dans l'imagination.
Thank you. Alors vous êtes né, on l'a entendu, à Leningrad, 1952. C'est une ville d'une beauté sublime. J'imagine que ça forge aussi.
Et la France a quelque chose à faire avec cela. La France et l'Italie aussi. Parce que la beauté de l'architecture s'est inspirée par les Italiens. Et la géométrie de la ville est créée par les Français. Donc il y a ce mélange assez extraordinaire qui fait en sorte que ça reste toujours une des plus belles villes de la planète.
Il y avait quelques mots de français déjà dans votre enfance ?
Non, pas tellement, parce que, vous savez, à l'époque, justement parce qu'on était pratiquement certain qu'on ne va jamais pouvoir sortir, donc on n'était pas trop motivé. Donc finalement, non, je n'avais pas de souvenir ou possibilité de pratiquer une autre langue que russe.
Et alors, dans cette famille, vous êtes le fils aîné, vous êtes le...
Oui, je suis fils aîné. J'avais un frère qui a été 7 ans plus jeune que moi. Et comme ça, on a grandi, oui.
Yakov Kreisberg.
C'est exact.
Qui avait pris le nom de votre mère, alors.
Oui.
C'est ça.
Oui, il voulait prendre le nom de notre mère, parce que comme il souhaitait aussi devenir chef d'orchestre, ça serait naturellement nettement plus facile de ne pas se confondre avec un autre.
Voilà. Qui étiez-vous ? Mais donc, c'est-à-dire, comme vous avez 7 ans d'écart, que quand lui a eu un désir de musique, il était déjà évident que vous, de 7 ans, son aîné, vous seriez chef d'orchestre. Ce que je veux dire, c'est que votre vocation, elle a été très rapide, et la sienne aussi.
Oui, je pense que le désir de diriger est venu à peu près à l'âge de 8-9 ans. Quand je suis rentré à l'école de Glinka, on chantait tous dans le chœur de Glinka. C'était que des garçons, il n'y avait pas de filles. Et nous avons naturellement notre chef qui nous dirigeait. Et pour moi, c'était le premier prototype d'un chef qui pouvait nous faire chanter pour exprimer ce que ce morceau de musique signifiait. Et en le regardant et observant comment il travaillait, le rêve de devenir un chef d'orchestre a été né.
Vous avez évoqué comme ça très rapidement l'école Glinka, c'est pas n'importe quelle école, c'est une école qui a une tradition incroyable derrière elle. Je crois un concours qui est très difficile. Qu'est-ce qui pousse l'enfant que vous êtes à rentrer dans cette école? Qu'est-ce qui le pousse? Est-ce une passion des parents?
Vous savez, à cet âge-là, et j'avais 7 ans, on prend pas de décision, on connaît rien du tout. Tout ce que je savais, c'est que j'ai commencé à jouer au piano à l'âge de 5 ans. On m'avait diagnostiqué d'avoir l'oreille absolue.
C'est-à-dire qu'on vous a emmené auprès d'un grand professionnel, c'est ça ?
Il y avait, peut-être ça existe toujours, une espèce de club des scientifiques. Comme mon père a été scientifique, il était membre de ce club. Et là, il y avait plusieurs activités qui sont offertes, y compris les sons de musique. Donc un jour, ma mère m'a emmené là-bas, j'avais 5 ans, et me présenter à une professeure qui, à l'époque, à cette époque-là, même avant la Révolution, elle a étudié à Conservatoire de Varsovie. C'était déjà une dame très âgée qui est devenue mon premier pédagogue de piano, de musique, et comme encore rajouter à grand-mère que j'avais. C'était vraiment une dame extraordinaire. Et donc, c'était elle qui a diagnostiqué l'oreille absolue. Et sens de rythme, c'est tout ce qu'on peut dire sur un enfant de 5 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai étudié piano avec elle. J'ai déjà joué au premier concert après une année des études avec elle. Et ensuite, à l'âge de 7 ans, c'était le moment d'entrer en école. Et comme elle était professeure à l'école de Glinka, elle a suggéré à mes parents qu'on essaie pour me faire rentrer dans cette école. Malgré le concours qui a été colossal. Imaginez que l'année 1960, il y avait 500 garçons de 7 ans, ils sont venus de partout, de pays entiers. Il pouvait y avoir uniquement 20 places. Donc, il fallait être un des 20 qui pourront être acceptés. Et j'étais accepté. Et donc, j'ai continué d'étudier piano avec elle jusqu'à sa mort. Ensuite, je suis passé à un autre pédagogue qui est devenu encore une figure extrêmement importante dans ma vie et aussi avec tous les autres. Et là, j'avais une chance d'être guidé, élevé, entouré par des personnalités vraiment extraordinaires. Le meilleur de l'intelligence russe, malgré les conditions politiques qu'on connaît, pourtant c'était des gens de telle noblesse, noblesse d'esprit, de la culture et dévouement à l'art. Et comme ça, j'ai passé 10 ans à l'école de Glinka. Donc là, il fallait chanter dans le chœur des garçons, il fallait étudier piano, solfège, harmonie, contrepoint, l'histoire. L'histoire de l'histoire et l'histoire de la musique. Littérature, mathématiques, physique, chimie, tout ce que vous voulez, géographie. Et tout a été mélangé. Et ensuite, dans les 4 dernières années, on a commencé à étudier la direction du chœur. Donc déjà à l'âge de 13 ans, j'ai dirigé notre chœur pour la première fois.
France Musique, les grands entretiens de Semyon Bychkov.
Pour comprendre un petit peu quel était le quotidien à Semyon Bychkov, est-ce que vous pourriez nous décrire aussi l'appartement dans lequel vous habitez ? Est-ce que ça fait partie de ces appartements où il y avait soit la famille élargie, soit différentes familles ? Comment c'était le quotidien aussi de vous, enfant ?
Toute ma vie en Russie, à Saint-Pétersbourg, qui a été Leningrad, est passé dans la même rue, qui s'appelle Tavrichskaya. Tout premier appartement où on a vécu, c'était notre famille, plus ma grand-mère et mon grand-père.
Du côté de votre mère ou votre père ?
Du côté de ma mère. Ensuite, quand ma grand-mère a décédé, on voulait changer le lieu. Donc, on avait des relations, un oncle à moi, qui habitait même rue, mais au lieu de numéro 11, il habitait au numéro 3. Donc, on a échangé. Eux, ils sont déménagés chez nous et nous, on a déménagé chez eux. Cette fois-ci, on avait une pièce, toute la famille de 4, mes parents, mon frère et moi. La pièce, à cette époque-là, elle me paraissait assez grande. Plusieurs années plus tard, quand je suis retourné à Saint-Pétersbourg, j'avais l'occasion de revisiter ce lieu. Et j'étais époustouflé à quel point cette petite pièce, à quel point elle était petite. Vous voyez ?
C'est proustien, ça.
Exactement. Alors, c'était un appartement qu'on appelle communal. Donc, il y avait plusieurs voisins qui partageaient même cuisine, même salle de bain, même toilette. Et chaque famille avait cette petite pièce, une petite pièce. Alors, ça, c'était mon enfance. Finalement, je suis déménagé une fois de plus quand je me suis marié et mon épouse future, figurez-vous, habitait dans la même rue. Cette fois-ci, c'était numéro 15. Donc, je connaissais la rue plutôt bien. La vie quotidienne a été assez chargée. Chaque matin, je suis parti à 8h15 de la maison. Tout seul, je n'étais jamais accompagné, même à l'âge de 7 ans, quand je suis rentré dans l'école de Glinka. J'ai pris l'autobus, je suis arrivé à l'école. À 9h, les classes commencent, 50 minutes de chant dans le chœur, 10 minutes la pause, ensuite 50 minutes de mathématiques, 10 minutes de la pause, et comme ça la journée s'enchaîne et tout est mélangé, la musique et des autres sujets. Après, il y aura, par exemple, leçon de piano avec mon professeur. Donc, J'ai quitté la maison à 8 heures et je suis rentré souvent à minuit. Et ça, c'était normal. Et c'était joyeux. Quelques années plus tard, pas beaucoup, j'ai commencé à jouer à volley. Et je faisais partie de l'équipe Dynamo Leningrad. Et ça a duré 8 ans quand même. Donc, imaginez une journée où tu as 6 heures de classe. Ensuite, tu peux avoir les sons de piano. Ensuite, tu pars pour t'entraîner avec ton équipe pendant 3 heures. Tu reviens à l'école pour avoir les sons de direction. Le soir, il y aura un concert pour aller écouter ou notre propre concert, parce qu'on a fait beaucoup de concerts. Le chœur de Glinka, habillé dans un uniforme très belle, je dois dire, c'est vrai, ouais. Et donc, on était toute petite artiste. Il y avait donc, déjà dès le début, j'étais beaucoup sur scène et aussi en tant que pianiste.
Ah oui, et ça, vous avez tout de suite aimé la scène? Ah,
j'ai adoré. Imaginez de pouvoir chanter pour la première fois en Russie Stabat Mater de Pergolesi, dirigé par Rodolphe Barchaï, qui est venu avec son orchestre de chambre de Moscou pour créer pour la première fois en Russie Stabat Mater de Pergolesi. Et je faisais partie du chœur de le faire.
Dans les matières, les humanités, vous aviez des préférences. Est-ce que vous étiez le fils de votre père, avec un appétit scientifique? Est-ce que vous étiez un fou de Pouchkine? Qui vous étiez?
J'étais extrêmement proche à mon père. J'avais peut-être 12 ans, quand une fois, il a dit, on va aller se promener. C'était au milieu de soirée, en hiver. Donc il faisait froid. D'accord, on y va. Et pendant cette promenade, il m'a ouvert les yeux sur la réalité dans laquelle on habitait. Donc c'était à cet âge-là déjà que j'ai réalisé que la réalité était une chose et ce qu'on nous avait instruit de penser a été une autre. Il a pris beaucoup de risques parce qu'imaginez si un jour je ne suis pas très discret et je partage ce qu'il m'avait appris avec des autres, ça serait très grand problème pour lui et pour moi. Quand même, il a pris ce risque. En ce qui concerne Pouchkine, il y a un attachement personnel chez moi parce que quand je suis arrivé pour la première fois pour ce test diagnostique, quand j'avais 5 ans, cette dame qui est devenue mon première pédagogue de piano, elle m'a regardé, elle a dit « Ah, Pouchkine !» parce que j'avais des boucles. Et j'avais une ressemblance avec Pouchkine, j'imagine. Donc, je suis devenu Pouchkine pour elle. Alors, quelque part, j'ai cru qu'il y avait quelque chose entre moi et Pouchkine. Et ça a resté jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez parlé de cette conversation incroyable que votre père a eue avec vous quand vous étiez donc jeune. Vous pensez, de la part de votre père, c'était justement quelque chose d'essentiel aussi, en termes d'éducation, de vous parler comme à un homme aussi.
Oui, tout à fait. Vous savez, il était vraiment très réaliste sur la société que nous avons habitée. Il avait le cerveau pour comprendre que ce qu'on te dit et ce que tu es en train de vivre n'est pas toujours la même chose et souvent le contraire. Et donc, quelque part, je pense qu'il a cru que c'était important pour moi d'avoir les yeux ouverts. Et à partir de là, il n'y avait aucune illusion pour moi. Ce n'est pas à dire que j'ai perdu l'amour pour mon pays, pas du tout. C'était juste de réaliser que le pays est forcé de vivre dans le mensonge, ne pas avoir cette illusion.
Thank you. Et lorsque vous avez cette conversation avec votre père, est-ce que vous avez le sentiment, Semyon Bychkov, que ça vous donne, entre guillemets, peut-être un temps d'avance sur vos camarades aussi, d'avoir compris peut-être plus tôt les choses, une manière peut-être aussi de se protéger, de marcher dans cette vie, peut-être sans illusion, mais avec aussi une force?
Peut-être ça a venu pour moi plutôt que pour mes confrères. Ça, c'est très possible. Mais vous savez, pour les gens qui habitent dans ce régime, une chose qu'on appelle amitié, c'est quelque chose de très profond. Amitié, ça veut dire aussi avoir une confiance, pouvoir se confier à quelqu'un sans avoir peur que tu seras trahi. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de trahison, il y en a plein. Mais le vrai amitié, c'est l'amitié basée pas uniquement sur l'amour, mais aussi sur la confiance. Donc naturellement, à cette époque-là, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, je n'ai pas discuté ce genre de sujet avec mes copains. On avait plein d'autres sujets d'intérêt que discuter les politiques. Mais il y avait un épisode qui a été assez remarquable. Vous savez, en 1968, donc à ce moment-là, on a 16 ans, les Soviétiques ont envoyé la Tchécoslovaquie. Et j'ai appris ça en lisant des journaux dans la rue, comme ça. Le lendemain, on est dans l'école et il y a un cours de l'histoire qui était enseigné par notre professeur qui, elle, a été membre du Parti communiste, extrêmement fidèle, loyal au régime, mais en même temps une personne très très noble. Et donc, à un moment donné, un des élèves, un de mes copains, a dit à quel point il a soutenu l'action du gouvernement soviétique pour justement protéger nos frères tchèques de cette contre-révolution de Dubček et qui voulait construire socialisme avec un visage humain. Quand il a dit ça, il y avait un silence, personne n'a dit un mot. Elle n'a dit pas un mot non plus, elle nous a regardés. Et dans ses yeux, j'ai lu tant de honte. Et c'était ça qui a été ressenti fortement par, je dirais, peut-être l'intelligence entière de l'Union soviétique.
C'est sur cet extrait d'Alexandre Nevsky de Prokofiev par Marjana Lipovsek et l'orchestre de Paris dirigé par Semyon Bychkov que se referme le premier épisode des grands entretiens avec le chef d'orchestre soviétique naturalisé américain. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Nicolas Mathias, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.